fidèle jusqu'à la mort. Chapitre 2. Un festin au Moyen Âge. Marjorie se rendit à la cuisine pour aider à la préparation du souper sous les ordres de sa mère. Puis, le repas terminé, et après avoir reçu comme chaque soir la bénédiction de ses parents, elle se retira dans sa chambre. Mais elle ne se dévêtit pas. Lorsque le soleil disparut derrière les cimes des arbres, dans un ciel embrasé, la jeune fille était encore à sa fenêtre, attendant le retour de Richard Pinson, et lorsque la lune et les étoiles lurent par une à une au firmament, elle veillait encore. Enfin, elle entendit le pas d'un cheval, et descendant sans bruit dans le grand hall qui communiquait avec sa chambre, par un escalier dérobé, elle trouva Richard. « Quoi, damoiselle, vous ici ? » fit-il étonné. « Vous attendiez le livre, et... » « Le voici, et le jeune homme lui présenta un mince volume in quarto. « Merci, messire Pinson, mille fois merci !» s'écria Marjorie au comble de la joie. « Combien de temps puis-je garder ce livre ? Sir Carève ne veut pas accepter votre gage, » reprit Richard en remettant à Marjorie le précieux collier. « Il dit que la parole d'une laurée lui suffit. Il vous prête ce livre pour la durée d'un mois. De plus, il vous fait dire que s'il vous l'envoie, ce n'est pas qu'il n'y attache un grand prix, mais il espère que vous l'étudierez et l'aimerez. C'est là son désir et sa prière. « Amen !» répondit Marjorie en serrant le volume sur son cœur, et elle regagna doucement sa chambre. Là, après avoir verrouillé sa porte, elle s'assit dans un fauteuil en bois sculpté, et examina curieusement son trésor. Ce livre avait une reliure de cuir brun foncé, sans ornement. Il était garni de deux petits fermoirs argentés. Les feuillets en étaient en vélin, et, sur la première page, on voyait une enluminure mal dessinée, et assez grossièrement peinte, représentant le Sauveur et la Samaritaine. Aucune ponctuation n'interrompait le texte, sauf ici et là un point à la ligne. Pas de belles initiales fleuries ornées, mais parfois une lettre à l'encre rouge. Toutefois, l'écriture du manuscrit était claire et lisible, surtout pour des yeux habitués aux lettres gothiques. Tout d'abord, Marjorie se demanda si elle faisait mal en lisant ce livre, mais sa curiosité l'entraîna, et de plus elle avait un ardent désir d'en savoir davantage sur ces choses étranges dont Maître Sastre avait parlé. Elle ouvrit le volume au hasard, et ses yeux tombèrent sur ces mots, « Que votre cœur ne soit pas troublé, Jean 14, 1, 4. » Marjorie n'avait jamais entendu semblable parole, « Que votre cœur ne soit pas troublé. » On lui avait enseigné que le sentiment le plus acceptable pour Dieu était la crainte. « Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. » Marjorie joignit les mains, appuya sa tête sur le Saint-Livre, et pleine d'angoisse et de ferveur pria à haute voix, « Agneau qui as été immolé, as-tu préparé une demeure pour Marjorie Lovell ?» Puis elle continuait sa lecture, et plus elle lisait, plus elle sentait croître son étonnement. L'Église n'enseignait pas les mêmes choses que ce livre, et l'un et l'autre ne pouvaient avoir raison. Lequel alors avait tort? Comment l'Église pouvait-elle se tromper? Ne prétend-elle pas être la dépositaire de la vérité de Dieu? Et d'un autre côté, comment ces gens seraient-ils, dans l'erreur en rapportant les paroles mêmes de Christ? Durant cette nuit, les pensées de Marjorie oscillèrent plus d'une fois, ne sachant où s'arrêter et que choisir, l'infaillibilité de l'Église, ou l'infaillibilité de Dieu, elle résolut enfin de lire tout le volume pour établir son jugement, et elle trouva ces paroles, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Ces mots étaient-ils de Christ? Jusqu'ici, elle avait appris que la soumission à l'Église, les jeûnes, les pénitences, les aumônes, était le moyen de plaire à Dieu. Il était toujours question d'œuvre, mais jamais de Christ. Cela serait-il le vrai chemin? Elle continuait sa lecture, tandis que les larmes ruisselaient sur ses joues. Son cœur battait, son âme était éblouie de tant de révélations, et peu à peu le monde, la vie, la mort, le présent lui-même semblaient ne plus exister, et il n'y eut plus que Christ qui remplissait tout. Elle lut, inconsciente de la fuite du temps, sans s'apercevoir que l'aube avait remplacé la nuit, jusqu'à ce que la voix de sa mère, appelant une servante, vint l'avertir que le château se réveillait. Marjorie sursauta, effrayée. Elle enferma précipitamment le livre dans un coffret, dont elle seule avait la clé, et qui contenait ses bijoux et ses trésors les plus précieux, puis elle se mit à sa toilette, de sorte que Dame Lovell, entrant quelques minutes plus tard dans la chambre de sa fille, ne trouva rien d'insolite. Marjorie était debout devant son miroir, et relevait ses cheveux en un lourd chignon. Et, Madge, pas encore prête? Vous avez dormi bien tard, ma fille. Savez-vous qu'il est déjà 5 heures, et voici une heure pleine que votre père et moi sommes debout? Est-il si tard, vraiment? demanda Marjorie consternée. Je vous prie de me pardonner, ma mère. Et elle cherchait quelle excuse elle pourrait bien donner pour expliquer son retard, lorsqu'elle s'aperçut que Dame Lovell avait l'esprit préoccupé de bien autre chose. Grande nouvelle, ma fille, dit-elle en s'asseyant dans le fauteuil sculpté. De grandes nouvelles, en vérité, lesquelles, et où donc, madame ma mère? Où donc? Ici même, au château de Lovell, où serait-ce en cela? Richard Pinson est revenu si tard de Marston hier au soir qu'il n'a pu voir votre père, que ce matin. Je l'ai entendu rentrer. Vous ne dormiez donc pas? Non, j'ai été longtemps éveillée. Pauvre enfant. Rien d'étonnant alors à ce que vous soyez en retard. Mais écoutez mes nouvelles. Sir Ralph Marston et son parent, Lord Marnell, dîneront avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui? Et, oui, aujourd'hui même. Quels gens étranges, il doit y avoir à Londres. Sir Ralph nous prie de retarder le dîner jusqu'à une heure, Lord Marnell ne se mettant pas à table plus tôt. Je me demande à quelle heure il soupe. Pas avant que tout bon chrétien ne soit dans son lit, je parie. Lord Marnell demeure-t-il à Londres? Demanda Marjorie avec surprise, car une jeune fille de nos jours serait moins étonnée de dîner avec un mandarin chinois que Marjorie Lovell ne l'était, en apprenant qu'un grand seigneur de la capitale allait venir s'asseoir à la table de ses parents. Oui, sans doute, il demeure à Londres, et il est de la chambre du roi. C'est un homme puissant. Descendez promptement quand vous serez prête, ma fille, et pensez à préparer des mets délicats pour ces nobles seigneurs. Dame Lovell se hâta vers la cuisine, autant que sa corpulence le lui permettait, et Marjorie ne tarda pas à la suivre. Tandis que sa mère donnait des ordres dans la grande salle, faisait étendre sur le sol une couche de roseaux fraîchement coupés, et dressait des tables sur des tréteaux, la jeune fille prenait dans la vaste cuisine la direction des préparatifs du repas, et, entourée de ses aides, s'apprêtait à confectionner les plats les plus appréciés dans ce temps-là. Peu de livres sont aussi curieux qu'un recueil de recettes de cuisine d'il y a 500 ans. Nos ancêtres faisaient une grande consommation d'animaux variés, tels que lièvres, lapins, poulets, chapons. Ils mangeaient peu de poissons en dehors du carême, les anguilles exceptées. Les pommes de terre leur étaient naturellement inconnues, et le riz était si rare qu'il figurait au nombre des épices. Mais, par contre, on mangeait toutes sortes de végétaux, y compris des feuilles de rose. Le sel était, en général, aboré. On connaissait le sucre, mais il était très coûteux, et on le remplaçait par du miel. Le poivre et les clous de girofle étaient employés en quantités incroyables. Mais le condiment indispensable dans ce temps-là, et qui occupait dans la cuisine du Moyen-Âge le rôle que le sel a dans la nôtre, c'était le safran. À la table de Sir Lovell, lors de la visite de Lord Marnell, le plat de résistance était un ragoût de lièvre, et, à cette occasion, les lapins et les poulets furent servis entiers, et non pas coupés en petits morceaux, car le festin était offert à un puissant seigneur, et les lords avaient le droit de manger des animaux entiers, tandis que les gens du commun devaient se contenter de gobettes, petits morceaux. Lorsque Marjorie eut terminé les préparatifs du dîner, elle alla au jardin cueillir des fleurs et du romarin, qu'elle disposa en gros bouquets dans tous les coins du hall. Tout étant prêt, elle courut encore dans sa chambre, et épingla sur son épaule une quintise, c'est-à-dire un long flot de rubans cerises. À midi et demi, les hôtes attendus arrivèrent à cheval, et Richard Pinson les introduisit dans la salle. Marjorie s'attendait à trouver quelque ressemblance entre Lord Marnell et son cousin Sir Ralph Marston, qu'elle connaissait déjà et qui était un homme aimable et gai, d'une quarantaine d'années, toujours prêt à rire et à plaisanter avec chacun. Mais elle se trompait grandement. Le grand seigneur de Londres, qui était assis dans un vaste fauteuil de chêne, était de haute stature et d'un embonpoint excessif. Il pouvait avoir 10 ou 15 ans de plus que son cousin Marston, et il avait quelque chose dans son regard qui fit que Marjorie détourna les yeux, lorsqu'elle le rencontra. Il avait une figure étrange. Ses yeux et son front étaient beaux, et témoignaient d'une certaine intelligence, mais la partie inférieure de son visage était brutale, sensuelle, presque repoussante. Marjorie, qui avait attendu cette visite avec une curiosité extrême, sentit soudain naître dans son cœur une aversion insurmontable pour cet homme. Il lui était même dû de prendre place à côté de lui, ou de le regarder. Sir Godefroy présenta sa femme et sa fille à Lord Marnell et Sir Ralph, les salua avec cordialité, puis ils se mirent à table, car Richard Pinson apportait déjà le ragoût de lièvre, et Dame Catherine le suivait avec le potage. Sir Godefroy et Dame Lovell, leurs invités, leurs filles, Pinson, Dame Catherine et le père André, chapelain du château, étaient assis autour d'une table d'honneur, placée sur une estrade. Les servantes occupaient une seconde table et les valets une troisième, au bas bout de la salle. Sir Ralph, comme à son ordinaire, amusa toute la société par son entrain et son esprit. Seul Lord Marnel ne se dérida pas une seconde. Il était uniquement occupé à satisfaire son appétit, et, plus tard, Dame Lovell et le chapelain convinrent qu'il avait mangé à lui seul autant que cet homme en une semaine. Le dîner terminé et les tables enlevées, les convives se rapprochèrent de la grande cheminée. Sir Ralph chanta quelques chansons, raconta des anecdotes amusantes, plaisanta avec la jeunesse, tandis que Lord Marnel était engagé dans une conversation plus sérieuse avec Sir Godefroy. Soudain, Sir Ralph, se tournant vers son hôte, lui demanda ce qu'il savait du sermon qui avait été prêché la veille dans l'église de Bostock. « J'en ai entendu parler, mais je n'y ai pas assisté. Quelques Indiens s'y sont rendus. N'y étiez-vous pas, Madge ?»« Oui, mon père, j'y fus avec Messire Pinson. » »« Ah, dit Sir Ralph, je regrette maintenant de ne pas y avoir été, car mon noble cousin me dit que Maître Sastre est tenu en grand honneur, par beaucoup. Il est vrai que ce n'est pas par les meilleurs. Comprenez-moi bien, beau cousin, répondit Lord Marnel. Il n'y a que les Lollards qui pensent du bien de cet homme, et vous savez que notre sainte Église ne voit pas ces gens avec faveur. Ce mauvais prêtre, John Wycliffe, qui était leur chef, a plus nuit à la foi depuis quelques années que tous les autres hérétiques. Vous ne les aimez guère, il me semble, railla Sir Ralph. Les aimer, fulmina Lord Marnel. Et il laissa tomber son poing si violemment sur le bras de son fauteuil, que Marjorie sursauta. « Les aimer, je vous le jure, Ralph, si quelqu'un de ma maison ou de ma famille, fut même ma sœur, l'abbesse de Kenaton, voulait se joindre à ces gens-là, je le traînerai devant le Conseil suprême, et le ferai fouetter. » Marjorie frissonna. Sir Ralph se rejeta en arrière dans son fauteuil, et se mit à rire. « Tout beau, mon cousin, mais dites-nous quelles sont les doctrines de ces hommes dangereux, pour que vous les vouiez à un tel châtiment ? Toutes sortes de mauvaises doctrines, répliqua Lord Marnel avec rage. On dit qu'ils ne reconnaissent pas le Saint-Sacrement comme étant le corps de Christ. Ils prétendent que ce n'est qu'un morceau de pain, béni par le prêtre, et qui doit être mangé en souvenir de la mort de notre Seigneur. De même aussi, ils laisseraient les laïcs boire le sang de Christ. Ils disent encore que les saints et les anges ne doivent pas être adorés, qu'il faut seulement les respecter. Ils donnent les saintes écritures à lire au peuple, et nous savons bien qu'elles ne sont que pour les prêtres. Et je ne vois pas que ces misérables retiennent une seule des choses enseignées par notre sainte Église, sauf les messes pour les morts. D'ailleurs, je ne sais pas grand-chose sur leur compte, car de parler d'eux me met en grande colère. « Votre honneur sait-il ? » demanda Sir Godefroy, « si ce parti est nombreux à Londres, et dans les environs en ce moment ? Et qu'en pense-t-on à la cour ?» Il grandit tellement que le conseil du roi s'est décidé à préparer quelques ordonnances contre eux, pour leur défendre de se réunir, par exemple, et ces ordonnances seront présentées au Parlement. Dorénavant, comme mon excellent ami, le Saint-Abbé Bilson, me le racontait, toute personne convaincue de l'olardisme sera emprisonnée pour un temps plus ou moins long, selon la grâce du roi. Ils ne sont guère en faveur à la cour en ce moment, mais par malheur, ceux qui les y défendent sont très haut placés. On m'a dit que dans le palais du duc de Lancastre, ils ont trouvé des appuis, et chacun sait que la reine, que Dieu lui pardonne, leur reste fort attachée. Elle lit les saintes écritures dans la langue vulgaire. Maître Sastre, le prêtre qui a prêché hier à Bostock, est un de leurs principaux clercs, et a suivi les enseignements de Maître Wycliffe lui-même. Si jamais il remet les pieds à Londres, il s'en repentira. Il s'en va, prêchant ses doctrines d'un bout à l'autre du royaume, et détournant de la foi des âmes, faible et mal affermie. Une remarque de Sir Ralph donna un autre cours à la conversation, au grand regret de Marjorie qui écoutait avidement. Les paroles de Lord Marnel lui en avaient plus appris, sur les Lollards qu'elle n'en savait jusque-là. Ainsi la reine lit la Bible en anglais, pensait-elle, pourquoi n'en ferait pas autant ? Elle resta longtemps perdue dans ses pensées, et s'aperçut soudain que sa mère avait quitté la salle, et que son père et Sir Ralph étaient engagés dans une discussion politique. Marjorie, que la conversation n'intéressait plus, s'esquiva discrètement pour aller à la cuisine, où elle trouva Dame Lovell, se lamentant sur les heures tardives de son hôte. Mais eût-elle soupçonné un instant le tour que prendrait la conversation en son absence, elle n'aurait jamais quitté sa place au coin de la grande cheminée.